hard you could be. Radioscopie.
René Kovacs.
Jacques Chancel. René Kovacs, vous êtes médecin, vous êtes spécialiste dans une discipline qui m'a toujours très bien acceptée par la médecine officielle, vous êtes auriculothérapeute. J'aimerais que vous me donniez une définition très précise de ce métier.
Avant d'être un auriculothérapeute, il faut, je crois, être médecin et savoir beaucoup en ce qui concerne la médecine. L'auriculothérapie est une méthode réflexe qui agit sur l'organisme à travers certains points de l'oreille. En effet, vous avez ici en France, nous avons ici en France, un médecin qui naturellement est presque inconnu, le docteur Paul Nogier.
De Lyon.
De Lyon. Qui est le père de cette médecine, qui s'est dédié à l'étude de cette médecine depuis plus de 27 années.
Et qui n'est toujours pas reconnue.
Elle est de plus en plus reconnue.
Mais lui est-il reconnu?
Écoutez-moi, des avions, des charters entiers arrivent d'Amérique pour étudier avec lui. Chaque fois qu'un séminaire d'auriculomédecine se réunit en Allemagne, par exemple, on arrive à assembler 2500 médecins. Je donne des cours à la faculté de médecine au sujet de l'auriculothérapie.
À Madrid.
À Madrid. Comment penser qu'un jour, enfin, on arrive à voir ici, en France, l'auriculothérapie être reconnue, et peut-être les Français vont-ils se réveiller un jour en sachant ou en apprenant que le docteur Nogier a été proposé pour un prix Nobel à notre. Je sais que s'il m'écoute actuellement, il est tellement modeste que ces choses ne lui paieront pas. Mais nous pensons tous qu'un jour, il sera proposé pour un prix Nobel.
Alors René Kovacs, comment expliquez-vous que la hiérarchie de la médecine ne reconnaisse pas une définition comme la vôtre, une discipline comme celle que vous exercez, et un homme comme celui dont vous venez de parler?
Je vais vous dire, je crois que c'est par ignorance.
Parce qu'on se méfie aussi, parce qu'on a peur de ce qu'il a découvert, ou la nouveauté.
Oui.
Ou peut-être le rétroactif, car ça n'est pas nouveau. C'est vieux comme le monde, ça date de l'Antiquité.
Je regrette. Je dois tout de suite vous dire la chose suivante. Il y a une énorme différence entre auriculothérapie et acupuncture. Ce n'est pas du tout la même chose.
Question d'aiguille.
Et alors, vous employez un couteau pour couper du pain, et vous pouvez employer un couteau pour faire autre chose également. Comprenez-vous? Non, c'est une question d'aiguille, mais la conception est complètement différente, la perspective est complètement différente, et je crois qu'il faut définir, il faut savoir de quoi il s'agit, avant de pouvoir confondre auriculothérapie et acupuncture. Je dois vous dire que dans mon existence, j'ai connu pas mal de choses, et pour moi, la rencontre de l'auriculomédecine à travers du docteur René Bourdiol, le bras droit, du docteur Nogier, qui est un neuro-anatomiste, un neurophysiologiste extrêmement compétent, a été un choc. Parce que, comme la plupart des médecins qui aiment ou qui adorent leur profession, nous sommes inquiets. En effet, il existe en France un certain nombre de spécialités. En Espagne, 53 000 spécialités sont dans le codex. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît officiellement, qu'il existe de 200 à 300 substances actives. En Amérique, on accepte chaque année de 5, 6, 8 ou 10 médicaments nouveaux. En France, il y en a beaucoup plus, et en Espagne, encore beaucoup plus. Songez à ce que ça représente pour l'État, la dépense.
Vous êtes contre les médicaments, vous ?
Non, pas du tout. Je suis pour les médicaments qui agissent. Et non pas contre, nous ne sommes pas en faveur de cette polypharmacie. J'ai dans mes archives des ordonnances de confrères extrêmement distingués que je comprends parfaitement parce que moi-même j'ai pratiqué ce genre de médecine. Vous avez 7, 8, 9 médicaments et vous voyez que le médicament numéro 2 est absolument contre-indiqué en cas d'utilisation du médicament numéro 5. J'ai un jour posé la question à un de mes confrères en demandant mais comment pouvoir ordonner ce genre de médicament en sachant qu'il existe des effets complètement contraires. Il me dit, Dieu reconnaîtra les siens.
Mais René Kovacs, pourquoi avoir choisi une discipline nouvelle, difficile, et comme nous le disions tout à l'heure, pas toujours acceptée?
Alors,
toujours le goût du risque.
Pas exactement, c'est toujours le goût de trouver quelque chose de mieux.
L'aventure un peu.
Non, non plus.
Bon, l'aventure humaine.
L'aventure humaine. Vous savez, c'est Peggy qui a dit que les plus grands aventuriers des temps modernes étaient les pères de famille. Déjà, pour commettre des enfants au monde dans l'état actuel des choses, non. Mais, c'est-à-dire, une fois que j'ai fini mes études de médecine, qui ont duré naturellement 6 ans, je me suis rendu compte qu'en médecine, pratiquement, je savais peu. Et j'ai voyagé, avec l'argent que j'avais des remplacements, j'ai voyagé pour savoir davantage de médecine. J'ai été étudié en Belgique, 3 mois. J'étudie en Suisse, j'étudie en Italie, en Allemagne, uniquement pour savoir davantage de médecine. Et je me suis rendu compte que la question théorique est très bien, mais la pratique, c'est la reine en clinique. J'avais même demandé et obtenu un poste d'assistant dans une clinique américaine, et c'est en allant préparer mes documents pour partir aux États-Unis que j'ai rencontré ma future épouse. Eh bien, lorsque j'ai commencé à pratiquer la médecine, je me suis rendu compte que cette avalanche de médicaments, je ne dis pas que les médicaments soient nocifs, je vous demande bien de faire attention, cette avalanche, on parle toujours de la pollution externe, personne ne parle de la pollution interne. Savez-vous combien de comprimés d'acide acétylsalicylique qu'on emploie tous les jours? Je préfère ne pas le dire parce que je ne veux mettre personne à dos.
Dites-le quand même.
J'en ai déjà suffisamment, vous savez, contre moi. Il existe une pollution. J'ai dans ma consultation actuellement une malade qui a pris au cours de son existence 32 000 tablettes de calmants. 32 000 tablettes de calmants.
Elle n'est pas morte.
Pas encore. Et elle va mieux, elle ne prend absolument plus rien, et grâce aux découvertes du fameux docteur Nogier, avec une séance tous les 15 jours, tous les mois, ou tous les mois et demi, une séance qui dure 6 minutes, elle va libre de douleur.
Alors, René Kovacs, on peut penser que d'une manière générale, on pourrait se délivrer des médicaments.
Pas d'une façon.
Pas de tous les
médicaments. Pas de tous les médicaments, mais au moins réduire. Réduire. Vous savez, la part que représentent les médicaments dans le budget des assurances, c'est une chose énorme, mais il y a tellement d'intérêts. En Espagne, j'ai une consultation, je suis médecin consultant de la Croix-Rouge espagnole, j'ai 3 consultations, dans une seule d'entre elles, où je consulte seulement le mardi, en 2 ans et 7 mois, j'ai vu 11 000 malades en une seule de ces consultations. Je dois vous dire que ces malades, je les vois gratuitement. Je ne peux pas appartenir à un système d'assurance parce que j'ai beaucoup de travail. On m'appelle en consultation un peu partout, aux États-Unis, au Mexique, à l'étranger très souvent. Grâce à cette médecine, pour permettre de résoudre des problèmes qui jusque-là n'avaient point de solution.
Alors justement, René Kovacs, quelle est cette médecine? D'abord le mot auriculothérapie.
Alors,
le mot a été inventé à quel moment? Auriculo,
voici,
pour l'oreille, thérapie,
voici
on connaît.
Voici en quelques mots l'histoire de l'auriculothérapie. Je vous demande de me suivre parce que c'est passionnant, vraiment passionnant.
Je vous fais confiance.
Je vais essayer de faire en sorte de semer l'inquiétude dans votre esprit. Parce que il est une position extrêmement confortable. C'est celle qui consiste à suivre le mouvement des autres.
Accepter les idées reçues.
Ah, ça, ce n'est pas possible.
On ne progresse jamais.
Mais bien sûr, bien sûr. Alors, vis-à-vis de l'auriculothérapie, vous, enfin, je pas vous personnellement, mais la plupart des personnes sont dans la même position qu'un sympathique pygmée d'Afrique ou d'Amazonie auquel vous montrez un transistor.
Alors, je suis le pygmée, vous allez me convaincre.
Voilà. Alors, je vous amène un transistor. Et je vais vous dire, écoutez, vous allez entendre radioscopie du fameux Jacques Chancel. D'abord, il ne sait pas ce que c'est que radioscopie.
Il ne sait pas non plus qui est Jacques Chancel, ce qui est sympathique.
Mais alors, brusquement, une voix sort du transistor, en pleine forêt d'Amazonie. Qu'est-ce que fait le pygmée, mon cher ami? D'abord, il cherche où est caché l'homme qui parle. Et puis, il secoue la boîte. Et puis, comme il ne trouve pas d'explication, il vous dit, vous êtes un sorcier. Vive le sorcier. Voilà la position de la
plupart des gens. Vous êtes le sorcier, alors.
C'est comme ça que dans certains milieux, on nous appelle. parce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'une maladie, quelquefois de 8 ans, de 10 ans, puisse disparaître, au moins au point de vue symptôme, en quelques minutes. Je ne veux pas vous donner des cas extrêmes, parce que j'ai eu la chance, grâce au docteur René Bourdiol, mon ami, qui est un très 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 grand médecin, d'entrer dans ce groupe qui s'appelle le GLEM, G-L-E-M, groupe lyonnais d'études médicales, qui a son siège à Lyon, et dont le directeur, le président, est le docteur Nogier. C'est un groupe de pointe en ce qui concerne la recherche en médecine. Vous avez la médecine traditionnelle, telle qu'on l'enseigne dans la faculté, qui est parfaite. Et puis vous avez les gens de la faculté qui parlent avec mépris des médecines parallèles, des médecines douteuses. C'est tellement facile de semer le doute. Et c'est tellement agréable, cette situation confortable. Mais vous avez, quand un malade a fait un tour auprès de tous les spécialistes et qu'il arrive chez vous, donc nous voyons des cas désespérés.
C'est le dernier recours, mais c'est dangereux parfois, parce que justement des gens pensent qu'ils ne se guériront jamais, ils vont chez vous, et il y a parfois des exemples de réussite totale. Et tout le monde peut y croire.
C'est pas ce que tout le monde peut y croire, c'est que tout le monde commence d'abord à vous regarder avec suspicion. Parce que si vous arrivez à faire disparaître en quelques minutes des symptômes qui durent depuis des années, c'est douteux, ce n'est pas normal.
C'est de la magie.
C'est de la magie. Et alors, voici ce qui s'est passé. Nous revenons maintenant dans le vif du sujet. Il y a environ 27 ans, le docteur Nogier a vu apparaître dans son cabinet, il y a une loi des séries, vous savez, en médecine. Pendant, par exemple, une sclérose en plaques, je n'en verrai pas pendant 3 ans, et puis en une semaine, j'en verrai 4 cas. Ça arrive très souvent. D'ailleurs, ça s'explique. Il a vu apparaître toute une série de personnes qui avaient une certaine partie de l'oreille qui était brûlée. Toujours au même endroit. Peut-être beaucoup de médecins qui n'ont pas ce génie, parce que c'est un grand chercheur, auraient pu dire, bon, ce n'est rien, c'est une fantaisie, c'est une coïncidence. Mais Fleming a découvert la pénicilline.
Par hasard.
Parce que lui se demandait pourquoi, quand il y a du penicillium notatum, pourquoi est-ce que les microbes sont détruits? Et il a commencé à poser des questions. Qui vous a fait ça? Et pourquoi vous a-t-on fait cela? Et est-ce que les résultats ont été à la hauteur de vos espérances? Et chaque fois, la réponse était oui. Et chaque fois, c'était au même endroit que l'oreille était brûlée. Il a demandé qui avait fait ça. Et c'était différentes personnes qui avaient reçu en tradition, en héritage plus exactement, une tradition très ancienne et qui, de père en fils, de famille en famille, se communiquait ce secret. Au lieu de dire « ce n'est rien, continuons à ordonner des médicaments », il s'est penché et il s'est demandé pourquoi. Parce que en médecine, il faut toujours demander pourquoi.
Mais René Govaz, quelle était la tradition? Bon, les oreilles étaient rouges.
Celle de brûler un certain endroit d'une oreille pour faire disparaître la sciatique.
Mais brûler avec quoi?
Alors, je vais vous expliquer. J'ai ici tous des schémas. Malheureusement, nous sommes à la radio. C'est un petit appareil que l'on mettait juste à un certain endroit et qui brûlait, qui cautérisait cet endroit. En 1850, dans les journaux médicaux, on en parle, mais Valsalva, en 1517, en parlait déjà. Et le docteur Nogier a eu cette extraordinaire ténacité qui caractérise les grands génies. Il se demandait pourquoi. Pour lui, c'était un calvaire, parce qu'il a commencé à examiner des oreilles et encore des oreilles, et vous connaissez Lyon, vous savez le genre de ville que c'est, et je suppose, il ne me l'a jamais dit parce qu'il est très réservé, mais je suppose qu'il a dû connaître des heures amères.
Comme tous les chercheurs.
Comme tous les chercheurs. Tous les pionniers sont destinés à terminer sur la croix. Voyez Jésus. Et un jour, il a eu l'idée géniale, j'ai ici un schéma, je vous montrerai si vous voulez, de penser que cet endroit qui était brûlé était toujours le haut de l'antélix, ici.
Le haut de l'oreille.
Le haut de l'oreille. Et il a pensé que l'antélix n'était pas autre chose que la représentation de la colonne vertébrale. Et il a eu cette autre...
C'était le point extrême de la colonne vertébrale.
C'est le point extrême de la colonne vertébrale. Les 4 dernières lombaires, les 5 dernières lombaires, la première sacrée, d'où sont issues les racines du nerf sciatique. Et alors, j'ai ici tous les extraits, je vous les montrerai si vous voulez, et il a pensé également dans, voyez-vous, voici le rachis lombo sacré, c'était toujours cet endroit-là qui était brûlé.
Comme nous sommes à la radio, disons le haut de l'oreille.
Le haut de l'oreille, pas exactement le haut, mais en fait le haut de, en haut de la conque, cet endroit-ci. Et il a eu ensuite cette deuxième étincelle de génie, qui a été d'ailleurs immortalisée par un dessin du docteur Bourdiol, qui est repris dans le monde entier, sans qu'il soit fait mention du nom de l'auteur, comme toujours, que même les Chinois, parce que nous parlerons des Chinois si vous voulez, ont repris, et vous verrez que ce dessin n'est pas autre chose qu'un dessin d'une oreille et d'un fœtus, côte à côte, et vous verrez que le fœtus et l'oreille se ressemblent d'une façon absolument extraordinaire.
Donc, René Kovacs, vous partez du principe que par l'oreille, on peut soigner tout le corps. D'ailleurs, Hippocrate, je le crois, signale l'intérêt de certaines saignées de l'oreille pour traiter déjà l'impuissance.
L'impuissance, exactement. Et j'ai voulu savoir comment les gens faisaient de l'acupuncture, parce que je pratique également l'acupuncture.
Pourtant, tout à l'heure, vous faisiez une différence.
Absolument, ce sont deux méthodes différentes. Écoutez-moi bien, toute technique, pour moi et pour nous, qui est efficace et qui ne porte pas un préjudice immédiat, à moyen terme ou à long terme pour nos patients, est bonne. Si après-demain, on découvre quelque chose qui est encore, j'en doute, parce que là, l'auriculomédecine...
Ah, vous doutez.
Je doute qu'on puisse trouver...
Vous n'avez pas le droit de douter.
Je doute qu'on puisse trouver quelque chose d'aussi incroyable que l'auriculomédecine et d'aussi efficace. Eh bien, j'étudierai également cette technique. Je suis au service du malade, non pas au service d'un amour propre personnel, ou de querelles de clochers qui sont ridicules. Il y a des cols qui se heurtent. Pourquoi ? C'est le malade qui en souffre. Du moins, je le crois.
D'abord soigner.
D'abord soigner. C'est la première des choses. Guérir quelquefois et faire diminuer la douleur, les douleurs le plus possible.
Mais alors, René Kovacs, cette méthode, possible. Elle est chinoise,
elle est française.
Elle est égyptienne.
Elle est française. Elle a été redécouverte par Paul Nogier et l'origine se perd dans la nuit des temps. Et les Chinois, nous avons des documents ici, reconnaissent que Nogier a été celui qui a découvert au niveau de l'oreille tout ce nouveau système. En effet, les points d'acupuncture existent sur votre organisme d'une façon constante, toujours. Cependant que les points d'auriculomédecine n'apparaissent à l'oreille que si l'organe périphérique est en danger ou est malade. Je m'explique. Si vous prenez une simple pointe, bique, ce que vous voudrez, et que vous l'appuyez au niveau de l'oreille, un sujet sain n'aura aucun point douloureux. Le point n'est pas douloureux spontanément, il est douloureux quand vous appuyez. C'est comme ça que les premières recherches ont commencé. Lorsque vous appuyez qu'il n'y a pas de douleur, l'organe en question, parce que nous avons une cartographie, comme je vous l'ai dit, n'est pas douloureux, n'est pas malade.
Mais
lorsque la douleur apparaît, à ce moment-là, l'organe périphérique est malade. Nous avons pu objectiver cela grâce à des appareils. En effet, nous avons découvert que, par exemple, je prends votre pouce, je l'emprisonne avec une pince extrêmement forte. Je tâte, j'explore plus exactement le point qui, au niveau du pavillon de l'oreille, correspond au pouce. Il est indolore. Si je promène dessus un appareil électronique spécial dont je vais vous parler, l'appareil ne manifeste rien. Dès que la douleur apparaît au niveau du pouce, vous avez une douleur ponctiforme extrêmement forte, exquise, comme nous disons dans notre jargon médical, qui apparaît au niveau du pavillon de l'oreille, et l'appareil qui a été mis au point, grâce aux indications du docteur Nogier, est un appareil qui est extrêmement simple, qui enregistre la résistance électrique du revêtement cutané. Or, nous avons découvert que lorsque un organe était malade à la périphérie ou souffrait, à ce moment-là, il y avait un changement au niveau d'un seul point de l'oreille, au niveau de la résistance électrique. Nous pouvons donc enregistrer avec un appareil absolument objectif, électronique, cette différence de résistance électrique par rapport au tissu qui l'entoure. Donc, on ne peut pas discuter.
Ce que vous dites est très important et vous le savez parce que vous êtes le dernier espoir. D'ailleurs, je suis persuadé que j'entends le téléphone, vous allez recevoir un courrier vraiment très important.
Mais vous avez Paul Nogier, vous avez René Bourdiol ici en France.
Oui, mais vous pouvez promettre tout cela, parce qu'on va finir par croire que vous pouvez tout guérir. Donc des gens qui sont au dernier stade de leur maladie se disent, tiens, un espoir.
Bon, au début, nous nous sommes adressés essentiellement aux problèmes fonctionnels, c'est-à-dire aux douleurs, alors que l'organe en question était sain. C'est-à-dire un problème de fonctionnement. Vous comprenez bien la différence. Oui. Or, nous sommes rendus compte que grâce à certaines méthodes, nous arrivions déjà à pouvoir réduire des problèmes organiques à condition qu'ils ne soient pas trop avancés naturellement. Il existe un point de non-retour, un point irréversible où les lésions sont tellement importantes que c'est à ce moment-là vraiment le miracle qu'il faut attendre. Vous comprenez?
Donc,
Je ne vous parle ici, pardon, que de choses simples. L'auriculomycine, c'est bien autre chose, mais je ne peux pas en parler parce que, pour pouvoir...
Pourquoi on peut parler de tout?
Je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais vous avez un terrain plein de pierres, vous avez beau semer, rien ne sait. Il faut d'abord enlever les pierres. Pour enlever les pierres, il faut d'abord comprendre ce qu'est cette nouvelle médecine. Pour comprendre ce que c'est que cette nouvelle médecine, il faut déjà avoir pratiqué l'autre, connaître beaucoup de neurologie, et à ce moment-là, vous, littéralement, vous conversez avec le cerveau de votre patient.
Oui, mais pour cette nouvelle médecine, il va falloir que vous preniez véritablement toutes vos précautions.
C'est-à-dire?
Vous venez de le dire, il faut d'abord être médecin.
Bien
sûr. Il faut le répéter, parce que beaucoup de charlatans vont s'emparer de cette méthode.
C'est ce qui se passe.
Et avec des aiguilles, ils vont aller travailler du côté de l'oreille, et vous serez complètement dépassé par vos découvertes.
C'est tout à fait exact. Et nous avons une conscience aiguë de ce problème. Je vais vous dire pourquoi. En effet, lorsque vous avez une personne qui pratique illégalement la médecine, pour avoir des médicaments,
il y en a beaucoup.
Il faut signer une ordonnance. Pour pouvoir mettre une aiguille, il ne faut pas signer d'ordonnance. C'est un danger. C'est pour ça, en France, l'engouement a été tel, d'autre part la confusion, quelquefois entretenue à plaisir, entre acupuncture, auriculomédecine, est telle qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent de l'auriculomédecine sans savoir, comme M. Jourdan qui faisait de la prose sans savoir, d'autres qui font de l'acupuncture. Le seul ennui, c'est que lorsqu'on se trompe, ça peut être très grave.
Oui, mais René Kovacs, vous pouvez soulager, mais vous ne pouvez pas guérir. On est obligé d'aller revoir un médecin. Après, parlons par exemple d'une névralgie dentaire. Vous pouvez arrêter une névralgie avec cette aiguille dans l'oreille. Mais vous ne dites pas à votre patient, surtout n'allez pas chez le dentiste.
Absolument pas. Mais nous permettons à un patient qui a une névralgie dentaire d'attendre tranquillement le lendemain, 3 ou 4 jours, à tel point, nous avons des points pour lutter contre la douleur de l'appendicite aiguë, mais nous acceptons d'appliquer ces aiguilles uniquement en milieu hospitalier à la condition expresse que le malade se fera opérer, puisque les douleurs disparaissent de telle façon que le malade peut faire une péritonite sans s'en rendre compte. Voilà le danger des gens qui vont manipuler les aiguilles sans savoir ce qu'ils font. J'ai présenté dernièrement au congrès, un congrès à Lyon, il y a une quinzaine de jours, un film au sujet d'une intervention qui était menée à bien en Espagne, uniquement avec des aiguilles, une opération assez délicate, qui n'avait jamais été tentée, ou du moins difficilement tentée à ce moment-là, et l'opération était menée à bien, le film a été projeté il y a environ une quinzaine de jours en France.
Enfin, des gens qui ont des maladies très graves viendront vous trouver. Vous allez leur promettre quelque chose, une guérison?
Vous oubliez une chose, je suis médecin. Je vais faire tout mon possible pour essayer d'amender les douleurs dans un premier temps. Deuxièmement, de voir jusqu'où nous pouvons aller. Mais promettre une guérison à tout coup, ça c'est un charlatan qui le fera, pas un médecin, Monsieur Chancel.
Pour en revenir à vos aiguilles, sont-elles celles du miracle?
Non. Mais non, il ne s'agit pas de miracle, il s'agit simplement de...
Lorsque je dis miracle, je ne pense pas magie, hein.
Non, nous refusons ce genre de mots, voyez-vous, parce que aussitôt vous aurez des gens qui disent non, des choses de miracle, c'est des choses de charlatanisme, non. Nous enseignons une nouvelle discipline, cette discipline, on devra en tenir compte. Tôt ou tard, le mouvement est irréversible, absolument irréversible.
Et vous ne pensez pas qu'on en revient un peu en arrière, parce que au siècle, les antibiotiques... Revenir aux vieilles aiguilles de Mao Tse-tung.
Est-ce que arrivez-vous à soigner une gonorrhée avec des antibiotiques actuellement? Lorsqu'on m'envoie des malades d'Ibiza, je tremble. Vous savez qu'il y a des communautés de gens qui vivent ensemble. La blénorragie ne répond pratiquement plus à aucun antibiotique. Il a fallu faire des souches spéciales, synthétiques, semi-synthétiques, pour arriver à soigner certaines blénorragies. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Donc vive l'aiguille.
Non, pas vive l'aiguille. Je crois qu'il faut savoir choisir. Vous avez un arsenal devant vous. Il faut savoir tranquillement choisir pour votre malade. Écoutez, je crois que le bon médecin est celui qui ne n'ordonne jamais à son malade ce qui ne s'ordonnerait pas à lui-même.
Merci René Kovacs. J'espère que l'on connaîtra un peu mieux maintenant cette discipline, votre métier, l'auriculothérapie. Vous avez parlé de l'oreille. Vous avez parlé de la manière de soigner les gens. Je crois que c'est dans l'oreille qu'il y a toutes les fonctions d'une guérison, peut-être. Merci René Kovacs. Demain, un autre rendez-vous. Demain, Jacques Lacarrière, un écrivain. Jacques Lacarrière, vous le connaissez. Je l'avais reçu déjà une fois, il y a un certain nombre d'années. Vous l'écoutez chez Claude Villers dans son émission Marche ou Rêve. Il a un petit piéton de Claude Villers. Demain, nous parlerons sans doute de la Grèce, mais nous parlerons également de la France et des beautés de la nature. À demain avec Jacques Lacarrière. Bonsoir.